Bon, on y va? Y a pas d'allégresse, de drame, de je ne sais quoi. Bon. Bien, alors là, le plan que vous avez sous les yeux, je vous le rappelle juste, hein, vous devez l'avoir en tête parce que c'est un plan facile à mémoriser, celui-là. Le positionnement, on avait quasiment terminé. Aujourd'hui, on va attaquer le gros morceau de la conception et surtout de la problématisation, sur laquelle on va aller très très vite. Il me reste sur le positionnement peut-être un tout petit mot à ajouter sur la question de l'originalité, si vous avez en tête ça. Nous nous étions arrêtés sur la carte de temps. Ça fait un petit moment, hein, puisque j'ai donné quelques lundis à différentes personnes, Alain Bouet ou à André Chenevard. Et ça fait qu'il y a des cours qui ont sauté, qu'on rattrapera sur l'ensemble, mais vous n'en faites pas. Donc ça, nous l'avions vu, on l'avait commenté. Vous l'avez en tête, je pense. Voilà, tout à fait. On devait peut-être traiter très rapidement, et je vais quand même le traiter ce matin, la question de l'originalité. Parce qu'une fois que vous vous êtes bien positionné en matière de contraintes, d'ambition, de choix du directeur de recherche, d'orientation épistémologique, etc., 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 il reste quand même peut-être une question qui peut vous inquiéter. C'est celle de l'originalité. Si vous regardez sur mes différents sites la liste de mémoires soutenues depuis quelques années, quand je dis quelques, c'est une façon de parler, c'est une litote, le nombre de sujets est énorme, absolument énorme. Si vous regardez, ne serait-ce que si c'est fait les 2-3 dernières années, sans remonter très loin, c'est aussi très divers, éclectique pour le dire comme ça. Parfois sur des sujets très généraux, au contraire sur des sujets très particuliers, très pointus, comme on dit. Et peut-être avez-vous une sorte d'angoisse par rapport à cette question-là, de dire, mais comment puis-je être sûr que tel sujet que je vais choisir n'aura pas déjà été traité par quelqu'un d'autre dans un avenir proche ou lointain? Une question qui paraît légitime. Alors, pour vous décomplexer de cette interrogation métaphysique, pour le dire comme ça, on va essayer de modéliser ensemble qu'est-ce que l'originalité d'un mémoire. Mon but, c'est de vous montrer que cette affaire d'originalité n'est pas du tout quelque chose d'angoissant. Il faut le prendre au contraire très bien et avec beaucoup de confiance. Alors, au fond, l'originalité de la mémoire, c'est quoi? Essayons de réfléchir un petit peu ensemble à trouver les variables de l'originalité de la mémoire. Par là même, ça vous permettra peut-être de savoir comment nous allons évaluer votre mémoire. Alors, l'originalité, ça serait quoi? Question comme première variable. L'originalité, bah, du sujet, non? On a bien vu qu'il y a des sujets hyper originaux auxquels personne ne pense, voilà, pour vraiment être complètement dans le thème, avoir une connaissance très approfondie du thème pour pouvoir trouver le sujet en question, tandis que pour d'autres, bonjour, comment ça va? Tandis que pour d'autres, ce sont des sujets tellement généraux, un peu bateau d'ailleurs, hein, des sujets presque du domaine du banal, on peut dire comme ça, qu'on se demande au fond, est-ce qu'il faut que je prenne quelque chose de complètement banal ou quelque chose d'hyper spécialisé? Bah. C'est donc la première variable, on va dire, sujet, objectif, thème ou sujet. Ok? Qu'est-ce qu'il y aurait comme deuxième variable? Dans la problématique, bien sûr. On n'arrête pas de parler problématique et aujourd'hui, on va entrer enfin dans le vif du sujet. Bon, dans le vif, la problématique. Vous avez, au travers des exemples qu'on a déjà traités, toutes certaines problématiques étaient très originales, hein, enfin, y penser quoi, d'autres, étaient un peu bateau. Donc ça fait deux variables. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme troisième variable? Ouais?
C'est la façon d'éviter.
Oui, l'originalité de la réaction. Ouais. C'est bien d'y penser. Est-ce que vraiment c'est fondamental? Bah, ça fait partie de la problématique. Mais c'est bien d'y penser. Dans l'originalité de la problématique, il y aura peut-être, bien sûr, déjà présent sous le nom d'hypothèse, originalité ou non, mais ça fait partie de la problématique. Bon, pour finir sur cette originalité de la rédaction, ouais, bon, c'est pas essentiel. Notre objectif, c'est de faire un mémoire qui produise de la connaissance nouvelle. On ne veut pas que vous soyez de parfaits rédacteurs. Si c'est en plus bien écrit, à la Roland Barthes, pour prendre cet exemple-là, c'est mieux. Mais je crois citer quelques auteurs chez nous, qui ne sont pas forcément de très 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 grands écrivains. Par exemple, Baudrillard, on a fait un petit cours sur Baudrillard il n'y a pas très longtemps, je dis que Baudrillard, les idées très intéressantes, mais la lecture de Baudrillard, c'est pas excitant, hein. Franchement, c'est pas excitant, en termes de maths. Bon, donc on laisse un peu de côté. La lecture, c'est une variable, mais c'est pas une variable de première importance. Ok ?
L'originalité du terrain.
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire le terrain, ce qu'on appelle corpus. Hein? Donc ça va être le terrain, je préfère dire corpus pour ne pas faire croire qu'il y a toujours un terrain concret. Vous voyez? Parce que dans corpus, ça peut l'originalité des articles, des bouquins. Pas toujours l'originalité d'un terrain avec des gens. Donc originalité, on a dit, du sujet, de la problématique, on va appeler corpus terrain. Yes, ça en fait trois importantes. Alors, il y a une autre ou pas? C'était un peu sur la carte de temps. Dans votre méthode, votre orientation méthodologique, non? Il y a des gens qui vont avoir des méthodes super originales. Je vous avais raconté, je crois, ce mémoire où un étudiant génial avait pesé des catalogues. C'est pas original, ça? Bon. Ou bien les observations participantes, des profils types. C'est quand même des méthodes qui sont très originales. OK? Bon, on a donc quatre variables principales et un certain nombre de sous-variables. Une sous-variable étant hypothèse, oui, étant rédaction, et puis tout ce que vous voulez, hein, qualité de la maquette, qualité des annexes, etc., etc., qualité des bibliographies, bien sûr. Mais ça va se dans un mémoire et une bibliographie, sinon c'est pas la peine de faire un mémoire, je ne peux pas mettre ça comme originalité palpitante. Bon, alors, la question de l'agilité, finalement, on la ramène à quatre variables. Ces quatre variables, on les modélise tout de suite sur Excel. Alors, on les modélise sur Excel de la façon... je vais peut-être l'agrandir un petit peu parce que là, vous n'y voyez rien. Je suis sur Excel. Hein. Voilà. Bon. Donc, originalité du sujet, de la problématique, du corpus ou de la méthodo. Alors, j'avais préparé un graphique, mais il y a juste un souci de recouvrement. C'est pas terrible. Bon, je vais peut-être le réduire. Non, même comme ça. Ouais, bon, il veut pas. Ouh là 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 là. Il veut pas. Bon, très bien. Alors, c'est pas grave. Le revoilà autrement. Si je prends le graphique, ça, c'est le graphique qui correspond à mon choix. J'ai dit que l'originalité, par exemple, je mettais 4 partout. Au fond, le mémoire parfait, ce serait celui qui serait original. Admettons que là, vous ayez l'originalité de la problématique, hein, d'accord. L'originalité qui va correspondre du corpus, l'originalité de la méthode, et l'originalité... Voilà. Hein, ça dépend comment je les place. Il y a une subtilité, c'est pourquoi je l'avais placé d'abord. Voilà. Hein, ici, j'avais mis sujet ou thème. J'avais mis ici de la problématique. J'avais mis de ce côté-là originalité. Alors, on s'est remarqué, voilà, c'était uniquement la méthodologie, mais bon, c'est une histoire de couverture entre une vieille version d'Excel, je ne sais pas quoi. Bon. Donc, c'était la méthodologie. On avait mis problématique méthodo, on a mis sujet corpus. L'idée, c'est ça, sujet corpus, problématique méthodo. Alors, je reviens sur celui-ci. Là, c'est le mémoire qui serait le mémoire parfait, quoi. Ça donne quoi, le mémoire parfait? Ça donne un carré, qui est aussi un losange. Un carré présenté sur cet axe-là, d'accord, et tout est au maximum. Bon, alors, dans ce que j'avais préparé, bon, admettons que le sujet ce soit à 2, admettons que la problématique ce soit à 2 seulement, voilà. Là, je viens de faire un autre profil de mémoire. C'est celui qui va être très très original sur... C'est embêtant, faudrait que je vais le remonter un petit peu, que nous ayons les deux ensemble. Là, voilà, là comme ça c'est bien, enfin c'est presque bien. On a à peu près tout ensemble. Voilà, c'est bon. Donc, on a en originalité du sujet et du corpus... Sujet, corpus, problématique, méthodo. On a ce losange. D'accord ?
On va s'en faire un autre. On pourrait très bien dire qu'on va remettre l'originalité du sujet à 4. La problématique, on va la mettre à 2. Là, on va repasser à 4. Et là, on va mettre 2. Là, j'ai un autre losange. OK ? Entre ce losange que je viens de faire apparaître et le précédent, qui était horizontal, vous n'avez pas une petite remarque à me faire ? Une remarque simple et bête. Pratique. Ouais.
C'est le contraire ?
Ouais, c'est le contraire. Il y en a un qui est vertical et l'autre qui est horizontal. Yes. Ils sont tous les deux plus petits que celui qui était en rouge, qui était le diagramme absolument idéal de celui, enfin de mémoire, qui était très très fort sur problématique, etc. Bon. Là, il y en a un qui est très orienté pour l'originalité du sujet du corpus. Et l'autre qui était très orienté sur originalité, méthodo et problématique. Mais mes deux losanges bleus, celui-ci et celui que j'avais mis avant, il n'y a pas quelque chose à lire dessus ? Non ? Non ? Si je m'intéresse à la surface du losange bleu, la surface du losange bleu vertical, est-ce qu'elle est différente du losange bleu horizontal ? Je vous pose une question géométrique qu'on doit poser en CP, là, à peu près, hein, ou en CE1. Il faut savoir, il faut être bon en CE1 aussi. Hein, non. Donc la surface est la même. Est-ce que la surface, ça ne serait pas l'originalité ? Parce que qu'est-ce qui occupe la plus grande surface ? C'est mon grand carré rouge. Lui, il a la surface maxi. Ça, c'est l'idéal à atteindre. Qu'on ne va pas forcément atteindre. On ne sera pas dans la perfection du grand carré avec sa plus grande surface. Autrement dit, bon, losange vertical qui est orienté sur sujet corpus et mon losange horizontal qui est orienté sur problématique méthodo, ils ont la même surface. Autrement dit, ils ont la même. Ben voilà. L'idée, c'est simplement de se dire que ce qui compte, c'est d'obtenir la plus grande originalité. Et vous avez 4 variables pour jouer là-dessus. Ben, les 4 variables, vous allez, en fonction de votre sujet, en fonction de ce que vous êtes, de votre ambition personnelle, etc., essayer de trouver la plus grande surface possible. Vous comprenez le truc ? Et est-ce que le losange bleu, il est meilleur que le losange bleu vertical, il est meilleur que le losange bleu horizontal ? Bon, évidemment non. On va simplement dire, il y en a un où l'auteur s'est éclaté sur le choix du sujet et du corpus, tellement c'est original, mais avec une problématique plutôt bateau, une méthode plutôt bateau. L'autre losange, ben c'est exactement le contraire. C'est quelqu'un qui s'est éclaté sur la problématique et la méthode avec un sujet assez banal. Autrement dit, vous pouvez prendre un sujet banal, mais enfin, vous voyez ce que ça veut dire ? Vous prenez un sujet banal, trouvez une problématique ou une méthode originale. Et maintenant, dans la réalité, est-ce qu'on est toujours un carré ou un losange ? Ce serait trop beau. Qu'on soit un carré ou un losange, ce serait trop un monde trop parfait. La réalité, c'est pas ça. Par exemple, on peut très bien dire qu'on va se faire un sujet comme ça. Vous voyez ? J'arrive à une forme qui ne sera pas symétrique. De même, je vais peut-être m'éclater sur la méthode. Ben là, j'ai un quadrilatère qui n'est rien. C'est plus un losange. Bien sûr, c'est pas un carré. Ça s'appelle un quadrilatère. Et alors ? Sa surface est importante. Ce qui compte, c'est que sa surface soit importante. Ce qu'il ne faut pas, c'est que vous fassiez, vous voyez tout de suite, un 1. Voilà. Si vous me faites ça, ce n'est pas terrible. Autrement dit, débrouillez-vous pour vous éclater. Vous êtes quelqu'un qui va, peut-être une tendance journalistique, investiguer sur un sujet dont personne n'a traité. Ben, vous allez faire ça. Pourquoi pas ? Ou vous êtes quelqu'un qui aime théoriser. Vous voyez venir, vous allez faire ça. En même temps, vous aimez bien trouver une jolie méthode, vous allez me faire ça. Et puis peut-être que quand même le corpus, vous allez vous défoncer pour faire quelque chose d'un peu fort. Bref, toutes les formes de quadrilatères possibles qui vont être inscrites dans ce losange sont possibles.
Le but du jeu étant d'obtenir la surface la plus grande. Parce que plus la surface est grande, plus l'originalité est grande. Ce qui veut dire que pour nous, les critères de notation, d'évaluation, si vous préférez, de votre mémoire, c'est tout simple. C'est de nous faire de plus grande originalité. Ça, c'est sur nos grandes variables. On va donc attribuer une importance quand même assez décisive à l'originalité du sujet, comment vous le défendez. L'originalité de la... Je prends dans l'ordre, du corpus, comment vous justifiez le corpus. L'originalité de la problématique et l'originalité de la méthode. Et puis après, on prendra les autres variables. La qualité de la rédaction, la qualité des hypothèses, la qualité de la maquette, la qualité des annexes, la qualité de la bibliographie, etc. etc. J'espère qu'à présent, vous êtes désangoissé, non ? Vous voyez, c'est un sujet qu'on doit aborder avec beaucoup de philosophie du calme, en disant, mais c'est pas un problème. Je me prends un sujet banal, aucun souci, ça fait rien. Alors, il y a la composante perso, hein. Il y en a qui parmi vous vont peut-être se dire, ben non, 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 sujet banal, c'est pas pour moi. Je veux pas d'un sujet banal, j'ai un sujet, c'est qu'à moi. D'accord. Prenez un sujet qui n'est qu'à vous. Oui. Et d'autres, au contraire, diront, bah, le sujet banal, ça me va bien, parce que peut-être que c'est, si on y consacre autant d'attention en ce moment, c'est parce que c'est un peu la mode, parce que derrière ce sujet, il y a peut-être des jobs éventuellement, je ne sais quoi, donc vous allez être du côté du classique. On retrouve ce que j'avais dit sur les classiques, académiques et les aventuriers. Vous voyez, comme ça, tout bien. Voilà. Donc, conclusion sur l'originalité, je crois que vous êtes totalement rassurés. Ça n'est plus du tout un problème, mais essayez quand même d'être original quelque part. Je vais vous montrer que si vous faites un truc tout petit, original d'une part, ma mémoire est fantastique. Ok ? Vous avez tout compris l'originalité. Et en plus, je vous ai montré comment, sur ce petit problème, qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens de modéliser. J'en ai cherché les variables. J'ai mis les variables en relation les unes avec les autres. J'en ai fait une représentation graphique qui plus est dynamique, qui me permettait de traiter plusieurs profils de mémoire et ou d'étudiants. Hein, on parle de mémoire, bien sûr, mais derrière mémoire, il y a l'auteur. Bon, donc j'ai fait plusieurs profils. Vous êtes forcément dans un de ces. De toute façon, vous serez forcément un de ces quadrilatères, je ne sais pas lequel, mais vous serez forcément un de ceux. Voilà. Bon, eh bien, ceci achève ce chapitre sur le positionnement, que je conclue d'un seul mot en disant que le positionnement, vous êtes en plein dedans, qu'il faudra y revenir de temps en temps, bien sûr, que c'est une étape fondamentale, parce qu'il faut se poser toutes ces questions qui sont à la fois très personnelles, rappelez-vous sur les questions de velléité, de volonté, qui sont des questions difficiles au plan épistémologique et philosophique, déterminisme ou pas déterminisme, qui sont des vraies questions sur la méthode que vous allez utiliser, et puis qui finalement doivent être assez rassurantes quand même, ces questions, parce que vous voyez qu'il n'y a pas de difficultés énormes, à condition qu'on ait bien modélisé dès le départ. Voilà pour ce chapitre qui était le numéro 1, et qui donc s'achève sur la question de l'originalité. Ok ? Alors, on va à présent passer dans un très gros morceau, qui est le chapitre 2. Le chapitre 2, il va être lui-même décomposé en parties, si vous voulez, enfin peu importe le vocabulaire, ou en grands paragraphes, hein, on peut structurer comme on veut. C'est tellement important, cette partie sur la problématisation, que je vous propose un plan particulier, rien que pour cette partie-là. Et on va le balayer tout de suite. Après l'introduction générale, qu'on a déjà faite, rappelez-vous, pourquoi problématiser ? Vous vous souvenez de la réponse ?
C'était une réponse un peu choquante. C'était quoi la réponse ? Oui. Pourquoi fallait-il problématiser ? Vous avez révélé ça dès notre premier contact ici, il y a un mois presque. Derrière notre... Enfin, à notre premier contact ici, qu'est-ce que je vous avais dit, la problématisation ?
La correction.
Ben voilà. C'était un outil d'optimisation. L'obligation de problématiser est résultée, c'est vraiment la résultante de quoi, bah, on va dire, de la nécessité dans laquelle se trouve le système universitaire d'évaluer un peu à l'avance la pertinence des travaux scientifiques qui vont être produits. C'est tout simplement ça. Il ne faut pas se raconter des grandes histoires. Ceux qui vous racontent autre chose, bah, ok, je les invite à y réfléchir et en débattre. Puisqu'on avait bien dit qu'on faisait autrefois des très bons mémoires, des très bonnes thèses, où il y a, dans lesquelles le mot problématique n'existait pas. On avait aussi dit que la problématique n'était pas forcément quelque chose qui amenait toujours des bons résultats scientifiques. Donc il y avait quand même un problème, quand même. Et ce problème, il faut l'examiner courageusement, sereinement, ne pas se voler la face, et bien se dire qu'il y a quelque chose à la base de cette tendance, aujourd'hui uniformément répandue, à la problématisation. Et ce quelque chose, c'était cet effort d'optimisation de l'évaluation préalable. Bon. J'avais aussi affirmé qu'on peut découvrir sans problématique, réaffirmons-le, on peut découvrir sans problématique, je crois qu'on avait fait un paragraphe spécial dans une diapo pour ça, vous vous en souvenez, c'était le mémoire le plus ambitieux possible, celui dans lequel on essayait de problématiser, pour de bon, on suait, on n'y arrivait pas. Pourquoi n'y arrivait-on pas? Vous voyez aussi, parce que le sujet était certainement trop complexe, parce qu'il y avait trop de variables en jeu, parce qu'on avait du mal à maîtriser, à cerner toutes les variables, et du coup, après avoir cherché à de nombreuses reprises à problématiser, on avait dû se résoudre à avancer sans problématique. Vous voyez, quand on dit qu'on peut trouver sans problématique, c'est pas parce qu'on n'a pas essayé, hein. On a essayé de problématiser pas mal de fois, et à chaque fois, bah, ça n'a pas marché. Donc dans ce cas-là, on peut découvrir son problématique, bien sûr que oui. Alors, les retours épistémologiques sur les grands genres de la science, si vous voulez, pour aujourd'hui, je vais peut-être, j'ai un diaporama spécial là-dessus, je ne vais pas le passer, hein. On va avancer, parce que, comme il y a quelques séances qui ont sauté, on n'est pas en retard, ce n'est pas du tout inquiétant ce que je dis, mais je préfère qu'on avance, donc ça, si vous voulez bien, pour le moment, je laisse un petit peu de côté, on verra si je le reprends en cours, ou si je vous me demanderais d'aller le regarder. Peut-être qu'il y en a qui l'auraient regardé, ça. Il y a une série de diapos qui remonte à Socrate, Platon, Aristote, qui passe par Descartes, Leibniz, plein de... Voilà. Bon. Les concepts de logique de complexité, la même chose. Pour l'instant, je ne les traite pas. Je les traiterai un petit peu plus tard. J'inverse un petit peu ma logique. On en a déjà un petit peu parlé pour l'un d'entre eux, c'est le principe d'incertitude. Heisenberg, ça par contre vous le savez, je vous l'ai déjà donné, ça en fait un. Il y en aura d'autres, bah, il faudra qu'on les voit. Mais c'est prématuré. Voilà. Je souhaite qu'on en arrive rapidement dès ce matin sur la définition de premier niveau de problématique, c'est-à-dire que dans quelques minutes, vous sachiez vous en tenir sur ce que c'est qu'une problématique. Une fois qu'on l'aura défini, on verra l'outil complètement génial qui s'appelle la grille de faisabilité, qui va être associée au premier niveau de problématique, bien sûr. Cette fameuse grille grâce à laquelle vous serez autonome pour pouvoir construire, élaborer vos propres problématiques. Dans n'importe quelle circonstance, que ce soit dans un mémoire détaché du stage ou que ce soit dans un mémoire attaché au stage, bien sûr, puisque dans les deux cas, on a dit, il faut problématiser. Que ce soit dans le mémoire de type A ou le mémoire de type 2, si vous êtes de type 1, type 2, on a une problématique à produire. Et cette grille de faisabilité, on va apprendre à s'en servir très vite. C'est un outil essentiel pour progresser. Le tour de table qu'on a fait, qu'on a achevé la semaine dernière avec les M2, qui rappelait les problématiques de M1, c'est très marrant, comme d'un étudiant à un autre, on met tout de suite dans les regards, la grille, elle marchait, et on savait tout de suite ces problématiques étaient bonnes. Et d'ailleurs, ceux qui sont en M2 ont généralement fait de très bonnes problématiques, donc elles passaient le premier niveau. Sinon, ils ne seraient pas en M2. On est par exemple une étudiante que j'ai accueillie en M2, une nouvelle d'une formation extérieure, et elle a vu quand même qu'il y a une petite différence par rapport à ce qu'elle avait fait comme problématique. Je vous demande aussi d'avoir en tête une chose sur cette partie. Ce qu'on a dit sur la problématique telle que vous l'avez déjà rencontrée dans votre scolarité antérieure. On a dit que la problématique telle qu'un prof de lettres en parle en classe de première ou en terminale, c'est tout à fait respectable, c'est très bien. Mais c'est un sens littéraire. C'est comme un prof de lettres va parler d'une problématique.
et conscience, on n'est pas preuve de l'être. Et que jusqu'à preuve du contraire, littérature, c'est pas tout à fait une science. Et que ce qui est vrai d'une problématique littéraire ne l'est plus dans une problématique scientifique. Hein, ça nous demande de bien l'avoir en tête. Parce que sinon, vous risquez d'être un petit peu perturbé quand est-ce qu'il va suivre. Alors, une fois qu'on aura fait cette définition au premier niveau et cette grille, on pourrait dire, bon, bah, ça y est, on s'arrête là.
Bah ouais, parce qu'avec ça, on peut monter jusqu'à 14-15, hein, si je parle bêtement en note sur 20. Si votre horizon s'arrête à 14-15, bon, bah, terminé, c'est bon, on arrête le cours là, et puis ça suffit. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, bah, évidemment, on aura besoin de compléments épistémologiques, bon, très bien. On aura le plaisir de se faire une définition de deuxième niveau. En particulier pour ceux ou celles qui se diraient que le premier niveau est un peu simple, un peu trop facile, voire simpliste. Eh bien, rassurez-vous, si ma définition de premier niveau va vous paraître un petit peu gentillette, celle-ci, faudra s'accrocher pour la comprendre. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Ceux qui aiment bien les phrases très simples et immédiatement compréhensibles, ils sont servis avec le niveau 1. Et ceux ou celles qui préfèrent un petit peu plus de raffinement dans la pensée, un peu plus de complexité, sont servis avec la définition numéro 2. Et bien sûr, comme il y a une grille de premier niveau, eh bien, il y aura une grille de second niveau. Premier niveau, 10 critères. Deuxième niveau, 5 critères. Total, 15 critères. Vous aurez donc, à l'issue de ce travail sur le deuxième niveau, 15 critères pour savoir à l'avance si votre problématique est quelque chose qui va vous mener à un résultat. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on fait si, on va voir en détail, mais c'est le moment de bien le dire. Si la grille vous dit que votre problématique, ça ne va pas, qu'est-ce que vous faites ? On va recommencer, quoi. Il me semble qu'un gamin, avant de marcher, il essaie pas mal de fois. Nous, on a tous essayé de marcher. On a rarement réussi du premier coup, non? Sauf si nous sommes ici une tribu de surdoués qui avons marché dès notre plus jeune âge sans jamais se casser la figure. Peut-être, en fait. Donc, on s'est cassé la figure avant de marcher. Hein? On a essayé, puis on est tombé, et puis on a réessayé, puis on est tombé, puis on a essayé, on est tombé, on a essayé, on est tombé, un certain nombre de fois, quoi, c'est pareil. Il faudra qu'on essaie un certain nombre de fois avant de trouver une problématique qui va nous faire tenir debout, qui sera en équilibre, pour dire comme ça. Alors, si ça ne vous suffisait pas, ce second niveau, qui nous assure quoi en notre. Ben, c'est bon, hein, on monte à 19 ou 20, etc. Là, on est dans les 14-15. C'est déjà bien, hein, c'est une belle note. Là, ça vous assure de monter jusqu'à 19. Voilà. 19,5 si vous voulez. Ah, peut-être pas 20, bon, 19,5. Et si vous voulez aller plus haut, ben, faudra qu'on examine plus en détail la question des variables. Faudra qu'on revienne là-dessus. Et puis peut-être qu'on se fasse la définition de troisième niveau. Ça, c'est si le 19,5 ne vous suffit pas, vous dites oui, mais moi j'envisage plutôt le 19,85. Eh ben, ok, on va en troisième niveau. Je rappelle que le troisième niveau, je le réserve en principe aux travaux type thèse. Mais il n'est pas interdit, si ça vous amuse, que vous en dise quelques mots, alors pour les dans les mains. Pourquoi pas ? C'est toujours bien de savoir ce qu'il y a au-dessus. Enfin, il semble. Peut-être pas trop au-dessus, parce que ça peut être un peu décourageant. Mais quand même, c'est bien de savoir qu'il y a des choses au-dessus, non ? Vous ne croyez pas ? Ça vous motive ou ça ne vous motive pas de savoir qu'il y a au-dessus ? Il me semble que c'est mieux quand même. Bon, voilà, bon, c'est parfois pas plus mal que de savoir qu'il y a un truc au-dessus. Alors, si vous me demandez ce qu'il y a une définition de quatrième niveau, j'en sais rien. Quand j'ai fait ça, je me suis dit, bon, le troisième niveau, c'est déjà pas mal. J'en sais rien. Je pense qu'après, on est sur un domaine tellement complexe qu'il est difficile de modéliser à ce niveau de complexité. Il y a des niveaux qui ne se modélisent pratiquement pas, tellement c'est compliqué. Mais avant, on a le niveau 1, le niveau 2, c'est déjà bien. Et peut-être le niveau 3, on va parler du niveau 4. Voilà notre travail pour ce chapitre. Cette grande partie, pardon, puisque c'est plutôt une partie, et à l'intérieur, les différents chapitres tels qu'on les voit. Alors, Je vous fais grâce, j'ai dit des jalons de la science. Pour l'instant, les concepts de logique de complexité, je laisse tomber aussi. On y reviendra après. Et on va tout de suite attaquer la définition de premier niveau. Bon, alors, voilà. Alors, avant de donner cette définition, qui va arriver dans quelques minutes, hein, juste une petite introduction à ce paragraphe, un petit rappel, déjà pour dire que certaines personnes prennent le mot problématique un peu dans tous les sens. Partout. Hein. Il y a plein de gens qui vous parlent de la problématique 2. C'est certes une sorte de renforcement du mot problème. Mais c'est souvent une situation qui pose problème. D'ailleurs, nos amis canadiens appellent ça une situation problème. Et parfois, dans d'autres disciplines scientifiques que la nôtre, on parle de situation problème. On peut aussi parler d'une question générale, d'une vraie question, d'une question théorique. Bref, c'est une question qu'on commence par se poser. Et notre boulot, ça va être de transformer cette question très générale en un questionnement qui sera précis, évidemment, qui sera complet et qui deviendra une problématique. Il y a des relations entre problème et problématique. On va dire que le problème, c'est une première approche. Ça permet de situer la question. Problématique, c'est un outil professionnel. Je le répète parce que ça, c'est important de bien comprendre. Tout le monde peut se poser des problèmes. En tant qu'être humain, on se pose des tas de problèmes. Problématique, c'est un outil professionnel. Vous voyez la différence? Nous, quand on parle de problématique, c'est un outil que les professionnels, on va dire de l'épistémologie de la science, se sont forgés pour résoudre les problèmes. Il ne s'agit pas de se poser des questions, se poser des problèmes, il s'agit de les résoudre. Et pour les résoudre, on a besoin d'un outil. Et cet outil s'appelle la problématique. Vous voyez la relation entre les deux? La problématique, je répète, c'est quelque chose de pro. Ça va donc faire l'objet d'une découverte, c'est ce qu'on fait, et d'un apprentissage. Un pro, il apprend. C'est comme ça qu'il devient pro d'ailleurs. C'est comme ça qu'il montre qu'il n'est pas un amateur, au sens un peu péjoratif du mot amateur, bien sûr. Alors, pour ça, je vais utiliser un film. Un vieux film, mais je n'ai pas trouvé de meilleur exemple. Et là, on voit quelque chose. Alors vous voyez je ne sais pas quoi. Pas grand-chose. Moi, sur mon écran, c'est un peu meilleur. Voilà. Et là, enfin, on voit un type qui surgit et qui se retourne. Et qui regarde. Et peut-être que sur l'écran, vous avez vu quelque chose quand même. Je vous ai peut-être fait partir. Je vous le remets. Voilà. Le revoilà encore une fois.
Vous avez vu quoi?
Oui, d'accord. Mais après, quand le personnage apparaît... C'est furtif, oui, c'est ça, parce que c'est dans le brouillard. Hein, c'est brouillard, voilà. Là, vous voyez bien qu'il y a quelque chose derrière, non? Ah! Vous voyez bien qu'il y a quelque chose. Non? De loin, on voit rien?
Si, 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 si.
Ah, bon. Ah ouais, on voit quand même. Oh. Bon, alors, ce film, ça m'étonnerait que vous le connaissiez, quoique ça m'est arrivé une fois ou deux de tomber sur un étudiant. Ah bah oui, c'est. C'est peu grave, c'est un film genre ciné-club, hein. Enfin, ciné-club, c'est pas... C'est un film qui a eu beaucoup de succès quand il est sorti, mais il est très ancien, qui s'appelle Fitzcarraldo. Le réalisateur s'appelle Werner Herzog. Ça ne vous dit pas grand-chose. Mais là, bon, c'est pas comme des trucs de culture générale, je vous embête. Vous ne connaissiez pas Fitzcarraldo. Et Werner Herzog, c'est pas très grave. Et l'acteur, par contre, peut-être que vous le connaissez, c'est un très grand acteur allemand, Klaus Kinski. Je vous montre le nom de sa fille, Anastasia Kinski. Non plus. Non, d'accord, c'est pas grave. Un type un peu fou, quoi, qui joue des rôles complètement déjantés. D'ailleurs, la bobine qu'il a, un peu spéciale. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce film? On voit ce gars qui est dans la brume. Visiblement, il est préoccupé, il se racle la tête, il ne sait pas où il va, quoi. Il a un projet. Un petit peu de seigneur. Il a un projet. La brume commence à se lever. Et il se retourne vers quelque chose qui l'intéresse.
quelque chose dont il est peut-être le responsable. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est un bateau. Ça, vous le voyez, même du fond, c'est un bateau. Sauf que le bateau, il n'est pas à l'horizontale. Le bateau, il est incliné. Qu'est-ce que ce bateau incliné? Et on est dans un décor de forêt. Donc visiblement, c'est un bateau qui est dans une forêt. Ouais. Un bateau dans une forêt, avec un type qui est en train de regarder. Ben, ce type, c'est où? Indépendamment de l'identification. Hein. Je travaille sur l'identification, mais l'identification, c'est très différé. J'ai montré, mais des psychologues américains l'ont montré aussi, mais moi j'ai montré il y a très longtemps. J'étais très très heureux de montrer ça, que l'identification est toujours sexuée. Les filles s'identifient aux filles, aux femmes, les garçons s'identifient aux garçons ou aux hommes. En dehors de la petite enfance, en fait, là qu'on appelle l'indifférenciation sexuelle, bien sûr. Bon. Mais l'identification étant toujours sexuée, bien sûr qu'une femme, en plus de vrai, s'identifie à un homme. Donc, quand je dis c'est vous, on est d'accord, c'est au passage symbolique. C'est-à-dire, c'est vous l'auteur du mémoire, je prends l'auteur comme ça. C'est vous l'auteur du mémoire. Parce qu'au fond, ce gars-là, il a un projet en tête, un projet fou. Ce projet fou, on va le voir après, personne n'y croit. Il n'y a que lui qui le voit. On est dans le brouillard, et lui, il sait où il va quand même. C'est la définition de votre relation au mémoire. Le mémoire, c'est flou. Au début, c'est complètement flou. Vous ne savez pas bien où vous allez. Il y a des gens qui vont dire, mais tu vas où comme ça? Vous voyez ce que je veux faire passer comme idée? Sauf qu'il a confiance. Sauf que lui, il sait où il va. Alors, d'une part, parce qu'il a un plan, il a une vision pour l'avenir, il sait, mais il peut être aussi inquiet, d'où son attitude. C'est un petit cadeau que je vous fais avec cette séquence de ce film. Je rappelle son nom, Fitzcarraldo, l'auteur Werner Herzog, l'acteur Klaus Kinski. C'est un film allemand, comme les prénoms vous le donnent, hein. Werner et Klaus, il y a des chances que ce soit plutôt allemand. Bon, on va enchaîner pour comprendre la suite sur ce bateau qui est en train de... Bah, visiblement, il est en train de quoi? Vous pouvez me le dire, peut-être? Il est dans une forêt, on a dit. Ok. Il est incliné. Ok. Donc c'est incliné. Bah, il monte, quoi. Il escalade. Oui, c'est ça. Hein, vous êtes totalement incrédule. Voilà. Vous dites quoi? Hein, quoi? Le bateau, il est sur la colline. Ça va bien, non? Le bateau, ça... C'est pas pour... Eh ben si. Eh ben si. C'est un projet d'un fou furieux. Alors, avant de passer à la suite, je peux vous dire dans le film, c'est quoi? Ce type-là a affrété un bateau. Ça se passe en Amérique du Sud. Il doit faire le tour d'une immense... mettons sur l'Amazon. Faire le tour d'une immense, vous savez, les grands béants de l'Amazone ou de ses affluents, faire le tour d'une immense région pour pouvoir livrer sa cargaison, ou aller prendre plutôt. C'est pas pour la livrer, le bateau est encore à vie, ça vaut mieux. Donc il va chercher sa cargaison, une cargaison précieuse. Et puis il apprend qu'il y a eu des bouillies, tout ce que vous voulez, que la rivière ou le fleuve est infranchissable. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais dire, c'est pas très compliqué. La rivière fait un méandre. Au milieu, ça fait presqu'île. Cette presqu'île, c'est une montagne. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais escalader la montagne, faire monter le bateau en haut de la montagne, redescendre de l'autre côté de la montagne, et me retrouver après le barrage. Où est le problème? Un mémoire, c'est parfois trouver un raccourci où personne ne voit rien. C'est ça l'idée. Les gens disent, bah, on ne passera jamais. Enfin, c'est pas possible. Hein. Coupé, ça passe pas. Ah, vas-y. Eh ben, ouais. Tout le monde pense qu'un bateau, c'est fait pour aller sur l'eau. Eh ben, ouais. Et on peut faire autre chose avec un bateau. On peut lui faire ce qu'il a dû monter. Pour la petite histoire, ce film, c'est un film ancien, a été tourné sans aucun effet spécial. C'est-à-dire, c'est pas de la 3D. C'est pas de l'imagerie numérique. C'est un vrai bateau qu'on a vraiment fait monter. Il y a raccord tout ce que vous voulez, bien sûr. Mais c'est un vrai bateau quand même. c'est pas comme on le fait aujourd'hui. Si vous avez à faire ce film, nos problèmes, je prends ce qu'il faut comme moyen numérique et je vais faire tous les effets possibles, imaginables. On fait bien plus fort aujourd'hui.
Non, mais là, c'était sans effet. Alors, donc, la problématique, on va dire sa définition à présent, une fois qu'on a un peu réfléchi sur ce film, la problématique, au fond, telle que cet acteur nous le montre, on veut faire le tour, on peut pas. Ça va donc être de se dire, faut que je fasse autre chose, faut que je trouve un moyen. Ce moyen, je dis lequel pour lui, c'est escalader la montagne. Donc la problématique, c'est avant tout, définition numéro 1. Allez, on y va, comme ça vous allez le savoir. C'est l'art de poser la bonne question. L'art de poser la bonne question.
J'avais annoncé tout à l'heure que ma définition serait simple. Tendance simpliste. Pour ne pas dire simplette. Un peu bébête, quoi. Parce que si vous attendiez une définition très élaborée, vous êtes en train de vous dire « Non mais oh, il est gentil, hein, s'il me raconte. » Ça fait un certain temps qu'on pose le problématique. Pour arriver à quoi ? L'art de poser la bonne question. Vous avez le droit d'être surpris. Plus que surpris. Choqué. Disons, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus élaboré, un peu plus intelligent quand même, non ? Alors on va quand même commenter pour voir si d'aventure cette définition, elle a quelque intérêt. Alors, elle commence par affirmer que c'est l'art. L'art. Qu'est-ce que l'art vient faire là-dedans ? Rappelez-vous par quoi j'ai commencé mon cours ? Rappelez-vous, Picasso. Vous avez dit qu'il y a une proximité entre une recherche scientifique et une création artistique. Une grande proximité, au plan neuronal, on le sait, aujourd'hui. Donc quand on dit l'art, c'est parce que quelque part, on retrouve les caractéristiques de l'artiste. Et je vais vous les donner, pas toutes, mais je vais en donner quelques-unes. Quand on dit que c'est l'art de poser la bonne question, quelles sont les premières caractéristiques qui viennent en tête pour une démarche artistique ? Et on va voir si ça s'applique à notre démarche, qui est scientifique, bien sûr. Alors, la première chose, c'est qu'un artiste, en principe, il a une approche, une pensée globale. Globale. La deuxième chose, c'est que pour lui, c'est immédiat. On est dans l'immédiateté. Donc déjà, c'est important. Je pense que c'est global et que c'est immédiat. Mais on va dire autre chose aussi. C'est complet. C'est-à-dire que d'un coup, tout fonctionne. D'accord ? Global, immédiat, complet. J'y rajouterai que souvent, c'est parfait. Les artistes vous disent que la plus belle œuvre d'art, c'est celle qu'ils ont dans leur tête. C'est complet et parfait. Ensuite, il faut beaucoup de travail à l'artiste pour fabriquer, conformer, créer son œuvre. Il faut beaucoup, beaucoup de travail parce que jamais ce qu'il va créer, pensez à une sculpture, à un tableau, une œuvre musicale, etc., jamais ça ne va correspondre à ce qu'il avait en tête. D'où le fait que l'artiste est toujours insatisfait. Enfin, l'œuvre, elle comporte tellement de choses qu'elle sera inépuisable, tout au moins pendant un certain temps. Elle sera inépuisable, c'est-à-dire qu'on va tout le temps trouver des choses nouvelles dedans, quitte à se demander si l'artiste y est vraiment mis lui-même. Ok ? Ça, c'est le crible pour l'artiste. Revenons sur le scientifique maintenant. Prenez la grille que je viens de vous donner. Premier critère, on a dit, il faut que ce soit global. La découverte scientifique, elle est globale. On a une approche globale de la chose. Ça marche. Deuxième critère que j'ai donné, l'immédiateté. Ben, quand on cherche longtemps quelque chose, c'est le Eureka de Archimède. Paf, j'ai trouvé. Ça y est, j'ai trouvé, je sais. Ensuite, j'ai dit que c'était complet ou parfait. Ben, la théorie scientifique est complète. Parfaite. Les grandes théories, c'est des systèmes complets, parfaits. Ensuite, j'ai dit qu'il fallait beaucoup de travail pour pouvoir le conformer, le créer. Bah oui, en science, il va falloir beaucoup de travail pour pouvoir le traduire dans un langage scientifique adapté, d'où la difficulté d'exprimer quelque chose qui est du domaine de l'hypercomplexe, qui est du domaine qui parfois nous dépasse, et ça va être compliqué, très très dur. Ce qui fait que le scientifique, comme le créateur, peuvent être un peu nerveux, un peu caractériel, pour dire ça comme ça. Et enfin, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ces deux démarches? On pourrait dire que elles sont rigoureusement identiques. Il n'y a pas de différence. Ça retrouve bien ce qu'on avait dit dès le début du cours. Alors, petit exercice pour voir si vous vous accrochez bien à ça. Pour l'instant, je tiens le discours que la démarche scientifique et la démarche créatrice sont équivalentes. Elles s'appliquent sur des termes différents, d'accord, mais c'est pareil. Est-ce qu'il n'y a pas une différence quand même? Peut-être qu'on conclut avant de dire que c'est équivalent, pour dire oui, c'est équivalent, sauf tel ou tel point. Si on y réfléchit ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous voyez pas une différence entre la démarche du créateur et la démarche du scientifique? Au fond.
La rationalité.
La
rationalité.
Rationalité, oui.
Jean-Sébastien Bach, qui crée ses œuvres musicales, il n'est pas dans la rationalité.
Les artistes ne sont pas dans la rationalité.
Pas forcément dans celle qu'on va comprendre. Et les grandes théories scientifiques sont dans la rationalité, mais sur la comprendre.
Non, dans un spécialiste.
Ah oui? Bien sûr. Dans les grandes théories scientifiques, elles sont plus la rationalité est plus facile à percevoir, vous dites. C'est bien de défendre ce point de vue, c'est très bien. Ouais, ouais, non.
C'est plus leur objectif, plus l'objectif de la rationalité, parce que dans les artistes, leur objectif, c'est pas forcément la rationalité.
C'est
dans leur objectif. Comment les sciences en vont dans la science, alors que l'art, c'est pas forcément une direction que l'art peut prendre.
Vous en pensez quoi, vous autres?
Ça dépend des artistes, en fait. Il y en a qui font des choses qui ne sont pas forcément rationnelles, mais au final, on comprend qu'il y a une certaine rationalité.
Oui, souvent, on comprend après.
Après.
Ouais. Bon. Alors, il est vrai, hein, quand vous donnez cette objection, qui est tout à fait recevable, c'est que là, on est très influencé par l'art contemporain. Et dans l'art contemporain, la rationalité n'est pas toujours évidente. Si je prends l'art classique tel qu'il existe depuis des siècles, depuis les millénaires, que ce soit en peinture, sculpture, musique, etc., théâtre, c'est tout ce monde. La rationalité, elle, est immédiatement perceptible. La peinture classique, la rationalité est perceptible. L'art contemporain, effectivement, la rationalité, d'abord, il y en a une, là, c'est votre interrogation. Et en admettant qu'il y en ait une, elle n'est pas immédiatement perceptible. Il faut une longue pratique, une longue accoutumance, une longue culture de l'art en question pour pouvoir comprendre qu'il y a peut-être une rationalité derrière. D'où d'ailleurs les théoriciens de l'art, tout ce que l'on a pu dire ou écrire sur l'art en général, il y a la question de la rationalité. C'est vrai que sur l'art contemporain, il y a une question de rationalité qui est peut-être battue en brèche. Je dirais même d'ailleurs que l'art contemporain s'est fondé comme opposition à la rationalité de l'art classique. C'est-à-dire comme ça qu'il l'a attaqué. Donc là-dessus, vous avez mis le doigt sur quelque chose de très, très sensé, hein, très juste. Bravo, c'est bien. C'est bien. Mais ça n'est vrai que pour la partie contemporaine de l'art. C'est pas vrai pour la partie art classique. Tous les grands musiciens, je parlais de Bach exprès, Bach, c'est la rationalité parfaite et totale. Tout est une rationalité, tout est à sa place. Pour la musique, et ainsi de suite, pour les tableaux. Alors, cette question de la rationalité est effectivement quelque chose qui fait une rupture pour la partie art contemporain. Je vous disais tout à l'heure que dans la démarche scientifique, il est vrai qu'il y a des théories, je pense surtout en physique par exemple, dans lesquelles on n'est plus sûr du tout de la rationalité. C'est pourquoi je vous embêtais en disant rationalité, ce que vous êtes sûr. Même la théorie quantique, on en dira un mot plus tard, des années entre les deux guerres mondiales, les années 20, même là, on n'est plus sûr de la rationalité. Le principe d'ubiquité, par exemple, tel que la mécanique quantique l'a érigé en système, à savoir qu'une particule peut être ici et là en même temps, est-ce que c'est rationnel, ça? Vous voyez, hein? N'importe, c'est plus rationnel, attendez, la particule est ici, mais en même temps, elle est là. Attendez, ça va pas votre truc? Bah si. Donc sentez que, de même que l'art contemporain est sorti d'une forme de rationalité pour s'opposer à l'art classique, la science, essentiellement les sciences du type physique, la physique est sortie de la rationalité pour aller vers des concepts beaucoup plus étranges, comme celui d'ubiquité, et encore, je ne dis pas le plus essentiel, le paradoxe temporel, pour en prendre un autre. On parle des voyages dans le temps, etc. Et il y a tout un tas de choses qui, dans la démarche scientifique pure et dure, ne sont pas tout à fait rationnelles. Donc, c'est bien, mais il y a quand même, on va dire, un inventaire à faire pour dire que l'aspect contemporain de la science, l'aspect contemporain de l'art, nous ont fait sortir du... Alors, attention aux mots, hein, du carcan, diraient certains, c'est ce que dit ceux qui le combattent, du carcan de la rationalité, nous ont fait sortir du cadre, pour pas être plus de la rationalité, selon que vous portez un jugement positif ou négatif sur la rationalité. Bon, c'est un très bon débat, bravo. Alors, on va accélérer un petit peu, il n'y a pas quelque chose qui paraît quand même beaucoup plus radicalement différent quand même. Quand vous faites des travaux scientifiques, on vous demande en principe de regarder ce qui s'est fait avant vous. Parce que la science est cumulative, non? On vous demande de faire une bibliographie, par exemple. Parce que la science est cumulative. La science accumule des résultats et on s'appuie sur les résultats de ces anciens, quoi, pour pouvoir aboutir aux siens. Ok? En art, est-ce qu'on a besoin d'accumuler les résultats des anciens? Ben, la réponse est que depuis un certain nombre d'années, on va dire surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, mais ça avait commencé entre les deux, les études artistiques se dispensent de l'apprentissage de ce qui se faisait auparavant. Regardez les Beaux-Arts, c'est un très bon exemple. Quand quelqu'un disait « je fais les Beaux-Arts avant la Seconde Guerre mondiale », il passait son temps à quoi faire? Aller dans les musées et à copier, recopier, recopier les chefs-d'œuvre du passé. On passait son temps à apprendre à peindre comme, alors, à la manière de Michel-Ange, à la manière de Ré. C'est bien ça, les Beaux-Arts. Vous connaissez des gens qui font les Beaux-Arts aujourd'hui. Est-ce qu'ils passent leur temps à recopier les œuvres anciennes? Surtout pas. Surtout pas. On est dans le primat de la création spontanée, de la création personnelle, et surtout pas dans un quelconque assujettissement au passé. Ce qui fait que l'art s'est radicalement détaché du passé, l'art contemporain s'est radicalement détaché du passé, tandis que la science ne le fait pas. On pourrait dire qu'il y a une différence, puisque l'art ne serait pas cumulatif, la science l'est. On pourrait dire ça comme ça. On pourrait dire aussi, entre un tableau moderne et une gravure rupestre d'il y a 30 000 ans, qui est un progrès. Est-ce que la notion de progrès dans l'art est quelque chose qui fait sens? On a du mal à dire qu'il y a un progrès, non? Alors que si je pose la même question pour la science, est-ce qu'il y a un progrès scientifique? Je pense que la réponse est évidente. D'accord? Bon, donc, la démarche scientifique et la démarche du créateur sont très très proches sur l'essentiel, mais peuvent diverger sur des points très importants, comme l'accumulation des connaissances, la science est cumulative et l'art ne l'est pas nécessairement, et sur un certain nombre d'autres points annexes qu'on peut ajouter, comme la relation à la rationalité, par exemple. Ce qui veut dire que dans l'art de poser la bonne question, c'est donc toute la démarche scientifique, l'essentiel y est, à quelques exceptions. La bonne question, qu'est-ce que c'est la bonne question?
Bah, c'est simple. La bonne question, c'est la question qui contient...
Bah voilà. La bonne question contient la réponse.
Et là, vous venez de comprendre quelque chose de fondamental, et en particulier, pourquoi c'est si dur de trouver une problématique.
Bah, vous avez enfin trouvé la problématique parce que vous avez enfin trouvé la réponse. Et c'est pourquoi c'est long. Et c'est pourquoi il ne faut pas s'étonner que pour pouvoir la concevoir, cette problématique, ce soit difficile, pénible, long, douloureux. Parce que quand vous l'avez trouvé, vous avez trouvé la réponse.
Ça serait vraiment, si vous avez un petit peu de culture cinématographique, des films de Woody Allen, vous pouvez penser à d'autres, de me citer une réplique célèbre d'un de ses films.
De Woody Allen?
Ouais. Voilà, dans lequel film, Woody Allen dit, mais je connais très très bien la réponse, mais rappelez-moi donc la question.
Je sais pas, on suit la guerre.
Peut-être, non, celui-là.
C'est fou, mais ça
fait... Pas trop bien, c'est une question, enfin.
Bref, vous chercherez, si ça vous amuse, on en parlera. En tout cas, je prends cet exemple pour dire, je connais la réponse, rappelez-moi donc la question. La question doit contenir en germe la réponse. Alors, quand on dit que la question contient la réponse, attention, on précise, hein, pas toujours de manière explicite et facile. Quand on dit que la question contient la réponse, ça peut être implicite. Elle ne va se révéler, cette réponse, qu'à la condition de fournir un travail approprié. C'est pas toujours évident. Il y a des problématiques qui sont comme des pépites d'or et qui donnent tout de suite la réponse. On en verra quelques exemples. Et quand vous trouvez ça, c'est merveilleux, c'est génial, vous dites la problématique. Elle est fantastique, la problématique, tellement elle est puissante. Tout est dedans. Et d'autres, au contraire, bah, c'est plus long, c'est plus douloureux, c'est plus difficile à comprendre, et il faut du temps pour... Souvent, les problématiques courtes sont les plus géniales. Souvent. Et sitôt que vous dépassez 3-4 lignes, ben, certes, il y a la réponse, mais il va falloir creuser pour la trouver. Et si vous faites 7-8 lignes, il faudra creuser encore plus profond, ce qui m'amène à dire qu'une problématique de M1, il est rare qu'elle excède 5-6 lignes. Une problématique qui fait une page, comme on dit en littérature, ça n'a rien à voir avec une problématique scientifique. Une problématique, c'est court et compréhensible. Bon, donc on a expliqué là, on a expliqué la bonne question, c'est celle qui contient la réponse au moins en germe, pour dire ça comme ça. Hein. Voilà. On pourrait dire aussi, et là je le montre sous une forme de... Ça c'est une courbe fractale, que la problématique, ça va, à partir d'un détail d'un problème, vous révéler l'intégralité de la structure. C'est-à-dire, quand vous posez la bonne question, vous avez la structure. Les fractales sont des courbes mathématiques qui ont la caractéristique particulière que quand vous agrandissez, quand vous zoomez, vous ne trouvez jamais les pixels, puisque ça se régénère automatiquement. C'est pourquoi on appelle ça fractal. Je le redirai d'ailleurs. C'est au fond la recherche d'une structure que vous allez faire dans votre travail. Vous voyez, on cherche des... Ce sont des vrais fractales, j'y reviendrai peut-être plus tard. C'est à la fois très beau, mais c'est aussi très très puissant. Alors, on revient un petit peu à notre film, en disant que le mémoire, c'est aussi la conquête de l'impossible, puisque pour aider le bateau, là on le voit bien, là, qui monte, il faut à la fois qu'il use de ses propres ressources, ses moteurs, qui ont été transformés pour la circonstance, hein, bien sûr, et puis des forces extérieures, en particulier la main-d'œuvre locale qu'on fait bosser, pendant que le bateau, on voit bien ici la fumée, il monte, alors très très lentement, ça insiste aussi sur le fait que c'est lent, hein, parce qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir. Ça montre aussi que c'est dangereux, parce que les câbles qu'on met, ça peut casser le bateau, s'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, il peut se coucher, ou il peut repartir en arrière, etc., etc., hein. À certains moments, il fait du surplace. D'ailleurs, là, l'image s'est arrêtée. Vous voyez, on fait du surplace et on ne sait même pas si on avance. Passez-vous dans le mémoire. C'est-à-dire, vous montez lentement, lentement, lentement.
Je fais du surplace ou je commence à reculer, j'en sais rien, c'est pas facile, ça va être le moment où vous allez travailler sur vos hypothèses, par exemple, sur la méthodologie. On continue à filer la métaphore en disant, eh bien, au bout d'un moment,
vous allez atteindre le rêve, c'est-à-dire clore le mémoire, le boucler enfin, de même que le bateau, bah, il va atteindre le sommet de la montagne, puisque là, il met très longtemps à monter, et on va enfin le voir arriver. Tout ça est très très long, je n'ai pas fait de coupe, hein. Le film, c'est un film des années 70, donc avec l'esthétique de ces films.
Rappelez-vous du cahier des charges, vous avez parlé aujourd'hui, on fait short, hein, très court. Les plans de ce film peuvent durer 30 secondes, 50 secondes. Aujourd'hui, voilà, bon, là, on a changé de plan, vous comprenez le truc, il y a des rouleaux. Et donc, le bateau va enfin passer.
Voilà, quelques plans plus rapprochés qui permettent de voir qu'en le mettant sur des rouleaux, bien sûr, technique classique, le revoilà majestueusement, et là, vous avez atteint votre point le plus haut, votre succès, on va dire, lorsque vous avez enfin franchi la montagne.
Bon, alors les métaphores de Fitzcarraldo, film de Werner Herzog, avec Klaus Kinski que vous avez vu au début, n'est là que pour symboliser la difficulté dans laquelle vous plonge le mémoire, à savoir d'être dans le brouillard au départ, vous ne savez pas où vous allez, c'est vraiment l'inconnu, que vous croyez à votre projet, tout le monde n'y croit pas, qu'il faut trouver la source en vous-même pour escalader la montagne, c'est le bateau qui fait tourner ses moteurs pour pouvoir tirer les câbles, qu'il faut de la ressource extérieure, c'est les types, les jeunes qui se tapent le treuil pour le faire monter, donc il y a aussi besoin de ressources extérieures. Ça montre tout ça, vous voyez, c'est de manière métaphorique, bien sûr, hein, je dis au départ, c'est symbolique. Mais c'est ça, il faut de la ressource perso en grand nombre, il faut avoir confiance en soi, mais il faut aussi utiliser les ressources extérieures quand il y en a. Et ne pas perdre confiance et se dire qu'on y arrivera.
Donc c'est un petit peu comme conquérant l'impossible de faire monter ce foutu bateau en haut de la colline. Je peux vous dire d'ailleurs que ça se termine heureusement. Il redescend, le voyage se termine, mais il y a des passages très très jolis. Il y a plein de belles images. Si vous pouvez sûrement le trouver sur le net, vous conseille peut-être d'y jeter quelques petits coups d'œil. Si vous pouvez voir le film, c'est aussi bien, mais prenez-le comme un film, comme on dit, de ciné-club, c'est-à-dire un film qu'il faut appréhender en se mettant dans l'état d'esprit d'une esthétique d'une époque. Comment ? Oui, c'est Fitz, F-I-T-Z, Carraldo, comme ça son nom, Carraldo, C-A-R-A-L-D-O. C'est le nom de... C'est le nom du Fitz Carraldo. Vous le trouverez très, très facilement si ça vous amuse.
Bon, voilà. Donc ce rêve est quand même finalement atteint. Vous avez votre problématique et vous avez à construire la vôtre. Bon. Alors, on va passer directement sur ce qui est le plus important maintenant, bien sûr, c'est-à-dire la question de la grille.
Deuxième paragraphe, après cette définition, la grille, ce que j'appelle la grille de faisabilité. Grille de faisabilité, et je vais expliquer pourquoi j'ai mis au point cette affaire-là.
J'emploie le jeu, parce que ça c'était dès la première édition de mon bouquin,
déjà dans d'autres articles auparavant. Ça vient de ce que je vous ai indiqué, ça vient d'une ruse. Reprenons la situation au départ. Une problématique, c'est donc l'art de poser la bonne question. On est d'accord. Le problème que ça pose, c'est que cette problématique, une fois que vous l'avez trouvée, inventée, découverte, conçu, etc., etc. Bref, vous l'avez. Comment être sûr qu'elle est valide? Comment être sûr qu'elle est bonne? Comment être sûr qu'elle vous mène au but? Comment être sûr que vous allez obtenir le résultat auquel vous attendez? Le seul moyen d'être sûr, c'est de... On va faire va déclencher toute la méthodologie pour vérifier cette problématique. Et on verra le détail après, mais vous voyez un petit peu. Si vous prenez une méthode simple, des questionnaires par exemple. Ok, j'ai une question, c'est ma problématique, je vais lancer des centaines de questionnaires, je vais dépouiller, je vais faire un travail là-dessus, je vais faire des dizaines d'entretiens, je vais dépouiller, machin. Donc rendez-vous dans un mois, deux mois, trois mois, six mois. Et au bout de ces deux, trois ou six mois, la réponse sera « Ah ben non, je n'ai pas validé, ma problématique était mauvaise. » Pareil. Alors si on avait l'avenir devant nous, ce ne serait pas un problème. Mais vous, l'avenir, ben, il est quand même un peu borné au mois de mai, au mois de juin. Parce que si au mois de mai, au mois de juin, ça n'a pas collé, il y a quand même un problème. Bon, donc, la ruse épistémologique que j'ai employée est la suivante. C'est de se dire. En logique, attention, là, c'est épistémologique, logique. En logique, donc la branche des mathématiques qui s'occupe de ce qui est la rationalité, on peut dire la rigueur, ça s'appelle la logique. En logique, pour prouver qu'une propriété est vraie, une propriété mathématique est vraie, il faut qu'elle le soit une infinité de fois. D'accord ? Bien.
Il faut quoi ?
Pour prouver qu'une propriété mathématique est vraie, il faut qu'elle le soit une infinité de fois. D'où ce que vous avez dû apprendre, le raisonnement mathématique, qui se fait toujours sur les cas généraux. Chacun connaît ça. D'accord ? Bah. La ruse qu'emploient les mathématiciens, vous me voyez venir ou pas ? Peut-être que vous avez découvert ça. Souvent, on découvre ce truc en quatrième ou en troisième.
Comment ? On parle du résultat.
Qu'est-ce que vous voulez dire d'ailleurs ça ? Je ne suis pas sûr de comprendre.
On a le résultat et ensuite on trouve
toutes les
façons d'y arriver.
On remonte à l'envers, c'est ça. D'accord. Ouais. Non, c'est une ruse mathématique, c'est vrai, qui est tout à fait intéressante. Mais c'est pas tout à fait. Enfin, c'est. Non, c'est pas ça. Si vous disiez par absurde, oui. C'est, je pense que ce que vous disiez derrière, c'était par absurde, c'est pas ça. Non, parce qu'il y a un raisonnement mathématique, c'est-à-dire que je ne suis pas capable de démontrer qu'une propriété est vraie, alors j'essaie de montrer que son contraire est faux. Ça, c'est tordu. Si son contraire est faux, c'est que ma propriété est vraie. Ça s'appelle le raisonnement par absurde. Mais c'est autre chose. Mais c'est une autre ruse. Non, on en a plusieurs des ruses. Non, celle qu'on va employer, elle est plus simple. On faisait du bien pour avoir ça quand même. Pour qu'une propriété, là c'est dans l'ordre des maths au départ, pour qu'une propriété mathématique soit considérée comme fausse, il faut et il suffit que dans un seul cas au moins, elle soit fausse. S'il y a un cas où une propriété mathématique est fausse, alors elle sera toujours fausse. C'est-à-dire qu'on ne tolère pas la moindre exception. On a droit à zéro exception. C'est ce qui distingue les maths, d'ailleurs, d'autres formes de raisonnement. Il n'y a pas d'exception, c'est comme ça. Et si vous trouvez un exemple dans lequel la propriété mathématique est fausse, eh bien, elle est réputée fausse. C'est ce qu'on fait dans tous les raisonnements mathématiques. Quand on a un truc trop difficile, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche à montrer qu'elle est fausse. Ben, c'est ça ma ruse, c'est de dire, si je ne suis pas capable de montrer à l'avance que la problématique est vraie, je vais essayer de montrer, même sur un exemple, qu'elle est fausse. Et je prends le problème à l'envers. Je ne peux pas l'attaquer de manière frontale. Je vais donc l'attaquer par un détour, en cherchant à voir si, au moins dans un cas, elle est fausse, s'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça ma ruse épistémologique, c'est de dire, je ne suis pas capable de montrer à l'avance qu'une problématique est vraie, donc je vais essayer de lui montrer si elle est fausse. Et si elle est fausse, eh bien, j'aurais plus qu'à trouver une autre problématique. Vous voyez le truc ? C'est une ruse logique, une ruse épistémologique. D'ailleurs, j'applique un raisonnement qui fonctionne depuis quelques millénaires à l'univers, on va dire, des sciences humaines et sociales. Tout simplement. Tout simplement. Alors, cette ruse épistémologique, eh bien, je l'ai traduite en un certain nombre de questions qu'on va poser à la problématique pour voir si elle a des chances d'être fausse. Ou d'être invalide. Hein. Je dis fausse, on peut dire invalide, mais invalide, ça fait trois syllabes, fausse, ça en fait qu'une. Ce qui me mène à cette grille de faisabilité de niveau 1, attention, ça va beaucoup vous décoiffer. Attention au choc.
avec cette grille.
Voilà la première question qu'on doit poser à la problématique. Alors j'ai marqué la problématique entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'à ce stade, c'est une interrogation. On ne sait pas si c'est une vraie problématique. D'accord ? J'aurais pu faire une phrase un peu lourde du genre « La question que l'on se pose, hein, est-elle vraiment une question ?» Bon, mais je préfère dire « Ce que l'on considère comme sa problématique, est-ce que c'est une question ?» Ça, c'est le premier critère. Si votre problématique n'est pas une question, laissez tomber. Ciao. Alors, on a le droit d'être amusé. Parce qu'une question, c'est généralement une phrase interrogative. Bon, ça. Oui, mais ça peut être une phrase interro-négative. N'est-il pas ? Voyez-vous ? Donc, une interro-négative, c'est bien une interrogative. Ça peut être une affirmo-interrogative. Wow. Une phrase en apparence affirmative, mais qui est quand même interrogative. Ça peut être une alternative. Alternative, en principe, à deux termes. Est-ce que c'est plutôt A ou est-ce que c'est plutôt B? Maintenant, si vous voulez faire une alternative à trois termes, why not, hein? Est-ce que c'est plutôt A, est-ce que c'est plutôt B, est-ce que c'est plutôt C? Puis vous faites à 26 termes, si vous voulez. Bon, ben, ça va plus. Donc l'alternative, en principe, contentez-vous de deux termes. C'est mieux. Ça vous fait quand même plein de possibilités pour exprimer cette problématique. Vous voyez qu'il n'y a pas toujours la nécessité de mettre un gros point d'interrogation. Dans une affirmation interrogative, il n'y a pas le point d'interrogation dans la syntaxe, mais au moins dans la compréhension de la phrase, on sait que c'est une question que l'on pose. Est-ce que ça, ça vous dérange ? Non, parce que quelque part, vous retrouvez un petit peu quand même ce que vous aviez dû apprendre sur la problématique littéraire. La problématique littéraire, c'est aussi une question, si je ne m'abuse, non ? Hein ?
Bon, et d'accord. Bien. Deuxième
critère. Cette question est-elle compréhensible ? Ça, c'est un critère tueur. Les premiers critères, je les appelle mes killers. C'est ceux qui vont tuer toutes les fausses ou les mauvaises affirmatives. Si votre question n'est pas compréhensible, laissez tomber. Alors, on va préciser compréhensible par les spécialistes. D'accord. J'ai pas dit compréhensible par quelqu'un dans la rue. Si votre problématique n'est pas compréhensible par quelqu'un à nous interroger dans la rue, ça c'est pas grave. Elle est souvent rédigée dans un langage codé, avec un jargon professionnel, avec une culture professionnelle sur les termes, et ça suppose que on possède cette culture, ces clés interprétatives pour la comprendre. Mais si un lecteur de bonne foi, de bonne intelligence, à la troisième ou quatrième lecture, n'a toujours pas compris, laissez tomber, c'est pas une question scientifique. J'applique moi-même. Hein. J'ai été expert pendant des années, 8 ans, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'ai eu à juger d'une part des masters, mais aussi de certains projets de recherche. Avec de l'argent à la clé. Hein. Il fallait dire oui ou non, on était deux experts, et si on disait oui tous les deux, l'auteur de la recherche avait fait des sous, sinon il n'y en avait pas. Bon. Enfin, j'ai fait économiser des centaines et des centaines de millions d'euros aux contribuables. Parce que si quand je lisais ces questions-là, ces problématiques, à la troisième ou quatrième lecture, je n'avais toujours pas compris, désolé, ce n'est pas une question. Elle doit être compréhensible, même après un effort soutenu, on doit voir de quoi il s'agit. Si on ne voit toujours pas de quoi il s'agit, c'est pas bon. Ça peut être de la philo, hein. C'est très respectable la philosophie. Il y a des textes philosophiques très difficiles, ça peut être de la psychanalyse, c'est respectable la psychanalyse, c'est passionnant. Lacan parlait, disait des choses très très intelligentes et très complexes. C'est pas tout à fait la science. Donc ce deuxième critère, il est déjà méchant. Attention, le troisième, c'est le pire de tous. C'est le critère, alors lui c'est le killer par excellence. Voilà. Est-ce qu'on peut répondre par oui ou par non ? Quand je dis oui ou non, c'est au début de la recherche, bien sûr. Une recherche, si on ne sait pas au départ si on répondra par oui ou par non, désolé, c'est pas pragmatique. Bien sûr qu'à l'arrivée, le oui sera peut-être un oui mais, ou le non sera peut-être un non mais. Bien sûr que oui, ça on est d'accord, je vais être très précis. Si aux problématiques, elle est assortie, je prends exprès ça, parce que cet exemple qui m'arrange, elle est assortie de trois hypothèses, trois, H1, H2, H3, trois hypothèses, ok? L'hypothèse 1, vous répondez oui, c'est sûr. L'hypothèse 2, vous répondez non, c'est sûr aussi. Tout va dépendre de la 3. Si la 3, vous répondez oui, eh bien votre problématique, ça sera un oui, mais. Et si vous répondez non, ça sera un non, mais. Oui? Ça va vous permettre de moduler le oui. Au début, on pense que c'est un oui complet, bien sûr. Mais à l'arrivée, on va se rendre compte que peut-être que le problème est plus complexe que ce qu'on croyait. Peut-être n'a-t-on pas pris en compte toutes les variables. Peut-être a-t-on minoré l'importance de telle ou telle d'entre elles, etc. De sorte que ce que l'on croyait être un oui fort va être un oui un peu plus faible. Mais il faut qu'on réponde par oui ou par non. La science se pose des questions auxquelles on répond par oui ou par non. Sinon, ce n'est pas la science. Ce critère est lourd. Il élimine d'un coup toutes les problématiques. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec l'étudiante accueillie en M2, sa problématique, le M1, c'était dans quelle mesure est-ce que blablabla. Vous voyez ? Alors, toutes les problématiques qui commencent dans quelle mesure ? Ciao. Au revoir. Passez au champ. C'est pas la peine. Ce n'est pas une question. Dans quelle mesure ? Ça sera quoi ? On va appeler ça une vraie question. C'est le cadre dans lequel vous allez nous interroger. Oui, dans quelle mesure ? Puis après, il faudra trouver qu'est-ce qui va jouer. Quelles sont les variables sur lesquelles on est ? Bon. Toutes les questions du genre comment se passe ceci ou se passe cela, le comment ne vous conduira jamais une question par une réponse par oui ou par non. C'est un critère très 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 méchant, très difficile. Hein. Certains chercheurs en SIC, plus largement qu'en SIC, ont beaucoup de mal à le comprendre. Je l'ai exposé depuis 20 ans dans des colloques et des congrès. C'est le moyen de faire avancer la connaissance scientifique. Si vous ne posez pas une question oui ou non, j'ai envie de renvoyer ça en disant « Mais alors ça sert à quoi votre travail ? Vous êtes payé pour quoi ?» Vous ne voyez pas que la science se pose des questions en bilan ? Heureusement que les scientifiques, alors les autres, des sciences, des autres domaines, hein, heureusement qu'ils se posent des questions en bilan, parce que s'ils ne se posaient pas des questions en bilan, je ne suis pas sûr que les Airbus voleraient et qu'on aurait les décidés. Vous voyez ? Alors, si vous voulez qu'on s'attarde là-dessus, quel est l'argument de ceux qui considèrent que ce n'est pas toujours bilan ? Vous en avez une petite idée, peut-être ? Alors, les trois, on a dû vous en causer. J'espère au moins qu'on a fait un examen attentif, parce que je suis tout à fait d'accord pour avoir un débat sur ces questions, un vrai débat épistémologique. Vous voyez, je l'ai déjà eu des tas de fois, bien sûr, hein, avec des collègues de mon niveau. Bon, quelles seraient les principales raisons pour lesquelles on pourrait dire « Ouais, mais oui, non, ça ne s'applique pas bien à nous, vous comprenez, on est sur un terrain difficile, mouvant, etc. » Ça, c'est de dire que nos terrains en sciences humaines ou sociales, on peut toujours répondre par oui ou par non. Et moi, j'ai envie de vous répondre. Et pourquoi on ne peut pas répondre par oui ou par non ? Au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Est-ce que nous, qui sommes soi-disant scientifiques, on soit dispensés de ça ? Un exemple tout bête. C'est peut-être qu'on le verra en théorie appliquée. Je crois que vous avez déjà un petit peu dit. Un exemple douloureux. La violence à la télé. On avait parlé de ça, non ? J'avais même cité le nom de la seule chercheuse française.
Ah oui.
Hein ? Qui a pété sa carrière, pour dire ça comme ça. Pété sa carrière ? Quand même. Pour cette question. Pourquoi ? Parce que, ayant fait ses études aux États-Unis, avec le spécialiste Germner, George Germner, je l'ai dit ça, je crois. L'approche nord-américaine est très différente de nous, hein, c'est du million là-bas. Pragmatique aussi. On ne vous finance pas une recherche pour laquelle il va sortir rien du tout. On pose une question, est-ce que la violence à la télé, ça peut déboucher sur la violence réelle ? La réponse est yes. Nous, en France, je vais étudier le truc. Hein. On ne veut pas se poser ces questions. Vous voyez, voilà qui est une question très très importante quand même. Alors plutôt que de se poser la question par oui ou par non, est-ce que la violence, machin, ça va occasionner la violence réelle, est-ce que si on monte des scènes épouvantables de viol, de je ne sais quoi, est-ce que ça va augmenter la fréquence des viols, des attaques à main armée, tout ce que vous voulez. Bon, on ne se pose pas ces questions. On se pose des questions générales, je ne sais pas, mais ça. La seule vraie question, c'est celle-là. Vous voyez le truc ? On n'est pas déconnecté de l'obligation de résultat. Au nom de quoi, nous, chercheurs en SIC et en SHS, serions-nous déconnectés de l'obligation de résultat? Au nom de quoi? Parce que c'est plus compliqué? À d'autres, dites, en biologie, ils n'ont pas à traiter des problèmes aussi compliqués que les nôtres? Non. Ceux qui font de la biologie, qui ont par exemple fait des travaux sur le sida, on ne se pose pas des questions avec Mignon sur le sida? Je parle du sida ou du cancer ou de... des maladies cardiaques ou je sais pas quoi. Non ? Vous voyez ? Je pense même à un domaine dans lequel le oui-non est tout à fait étrange. La climatologie. Voilà une science nouvelle, la climatologie. Hein. Bien plus récente que l'information communication. Il y a quand même une quarantaine d'années, je vous l'expliquais avec les serpilles. La climatologie, c'est vraiment récent. Et la climatologie, regardez. On s'est bien posé une question, non? Est-ce qu'il y a un réchauffement climatique avéré? Oui, disent les climatologues. Est-ce que ce réchauffement climatique est dû à l'activité humaine? Oui, disent les climatologues. Ce n'est pas des questions oui non, ça? Qu'on peut combattre. C'est ça l'intérêt de la science. C'est que pendant que ces gens-là disent oui, il y a accélération du réchauffement d'une part, il y a activité humaine comme déclencheur ou comme amplificateur de l'autre, d'autres scientifiques le contestent. La science, c'est ça. Bien sûr qu'on peut contester cette thèse. À ceux qui disent oui, on va pouvoir opposer un certain nombre de travaux, d'études, pour dire, attendez, peut-être que le oui que vous donnez, c'est pas si sûr, parce qu'on est sur des cycles, vous parlez de cycles courts, mais des cycles longs, etc. Bon, bref, c'est débat qu'on vous prépare à un dessin. Et je prends exprès cette question tout à fait contemporaine, dans laquelle il y a des chercheurs de toute nationalité et de toute culture. De toute culture. Et quand on est sur des terrains comme cela, on se pose des questions, on répond par oui ou par non. Qui, je répète, à ce que, quand on répond oui, eh bien, d'autres chercheurs vont dire non, c'est normal. Ça, c'est la science. Ça procède par une controverse scientifique. Et la controverse, généralement, mène à un certain progrès. Alors, quand je dis généralement, pas toujours, hein. Rappelez-vous, Galilée, la question est-ce que la Terre tourne autour du Soleil, au contraire, il avait répondu que la Terre tournait autour du Soleil, mais il a eu quelques soucis, comme chacun sait. Donc après, il y a d'autres aspects politiques, philosophiques, religieux, etc., qui vont obérer la réalité et la qualité de l'observation scientifique. Bon. Mais la science, quand elle n'est pas attachée à des considérations religieuses, philosophie, c'est libre de se poser toutes les questions qu'elle veut et donc de répondre par le temps. Vous voulez qu'on en débatte encore ou ça vous suffit? Ben c'est le moment, hein? Parce que je sais que ce point-là, lui tout seul, pose problème. À certains, hein, je vous rassure, je viens de donner des exemples. Quand on voyage un peu, quand on sort de son petit microcosme, on se rend compte que même dans nos domaines de sciences humaines et sociales, d'autres pays, d'autres scientifiques abordent les questions comme ça. On peut y voir aussi, j'ai prononcé le mot tout à l'heure, du pragmatisme. Du pragmatisme. Il faut être pragmatique pour faire ça. On commence par chercher si c'est oui ou non. Qui, je répète, à dire, c'est le oui-non dont j'ai parlé tout à l'heure. Le non-mat. Il y a même des cas dans lesquels, eh bien, un mémoire se termine par l'indécision. Alors, une précision pour vous. Une précision fondamentale. Vous posez votre problématique. Vous pensez sincèrement que la réponse va être oui. Vous faites le travail. On arrive au mois de mai ou juin. Et vous vous rendez compte que la réponse sera non. Qu'est-ce qui vous arrive en tant qu'étudiant? À la soutenance, c'est pour le mémoire. Vous êtes fusillé ou pas? Bah bien sûr que non. Ce serait indigne de vous fusiller. Attention à ce que je vais dire. Vous devez avoir la garantie, la certitude éthique ou déontologique, la certitude, la garantie déontologique, que si vous répondez non à votre problématique, vous serez tout aussi bien jugé que si vous répondez oui. Quand on pose une problématique, on n'est pas du tout obligé d'y répondre par l'affirmative et qu'on a bien validé. On peut très bien faire un travail scientifique très utile pour montrer que la réponse est non. Quelle sera votre utilité scientifique? Ce sera de dire, eh bien, devant ce phénomène, je pensais que c'était cette explication. La réponse est, ça n'est pas cette explication. Et vous aurez évité à quelqu'un d'autre de se perdre, de se fourvoyer. Donc vous aurez été utile. Et la note que vous aurez, je vous affirme, que des gens ici, quand ils disent non à la problématique, ils ont aussi bonne note que ceux qui disent oui. Et à la limite, il vaut bien mieux dire non à sa problématique de manière honnête, rationnelle et logique, plutôt que de tripoter, tripatouiller, arranger, truquer votre mémoire pour faire croire que la réponse est oui. Ça, c'est mal jugé. Si vous truquez votre mémoire pour répondre oui à tout prix, alors que la réponse est d'évidence non, eh bien, ça, effectivement, là, vous allez vous faire allumer, pour le dire comme ça. Alors que si vous répondez non, en particulier la conclusion, là, c'est le moment de faire une belle conclusion, de dire « je pensais que, parce que, j'ai mené telle et telle méthode, voilà, ça m'a donné tel résultat, ça a remis en question, par exemple, le choix des variables, bref, dans la conclusion, vous faites un boulot magnifique pour montrer que votre travail a été intelligent, déjà, vous ne le dites pas comme ça, bien sûr, vous le faites sentir, hein, a été rigoureux, a été bien construit, qu'au bout du compte, vous vous rendez compte peut-être que vous n'avez pas pris les bonnes variables, que peut-être que le modèle n'était pas satisfaisant, et que si le mémoire était à refaire, il faudrait le prendre de telle et telle façon. Éventuellement, dans la soutenance, vous reprenez ça. J'ai vu des gens qui avaient dit que leur problématique n'était pas valide, l'avaient affirmé et bien expliqué en soutenance, et qui se sont tirés 15 ou 16. Pas de problème. Vous voyez, j'ai parlé de garantie et déontologie tout à l'heure. C'est pour ça. Parce que ces formations dans lesquelles on vous bassine pour trouver la problématique, qu'il faut qu'à tout prix vous trouviez oui à la problématique, c'est bien ça, c'est du pipeau, c'est du baratin. C'est de la fausse science. C'est de la fausse science. La science se pose des questions auxquelles elle veut répondre par oui ou par non, et quand c'est non, eh ben, vous avez fait utile. Vous êtes rassuré avec ça? Mais vous avez l'esprit libre et tranquille, je pense. Donc si vous répondez non, il n'y a pas de problème. C'est pas une tare que de répondre non à sa problématique.
Et dans ce cas-là, enfin, la problématique, ouais. Elle ne refait pas le plan de votre dossier. Vraiment.
Ah! Question difficile, très difficile, le plan. Alors, je crois que vous l'avez un petit peu dit, mais je vais le reprendre. Le plan de votre mémoire, au stade où vous en êtes maintenant, où vous en serez jusqu'en janvier, je dis, je répète, je m'en moque. Quand les étudiants m'envoient le plan du mémoire, ça, je leur dis, je m'en fiche totalement. Parce que un mémoire, c'est pas une dissertation. Bien sûr, dans une disserte, il faut un plan. Bien sûr, il faut une certaine logique rhétorique et tout ce que vous voulez, mais pas pour un mémoire. Donc le plan, vous allez le faire tout à la fin. Et le plan que vous ferez à la fin, ben, il sera adapté aux circonstances. Et donc vous allez adapter le plan à la réponse à la problématique, bien sûr. Ne prenez pas le plan comme un cadre rigide dans lequel, duquel vous ne pouvez pas sortir, absolument pas. Prenez le plan au sens planning. Prenez le plan au sens check-up de ce qu'il y a à faire. Si vous envoyez un plan au sens check-up, alors il faut que j'interviewe A, B, C, il faut que je fasse mes questionnaires, il faut... D'accord, c'est un plan au sens gestion de tâches. Mais ce n'est pas un plan au sens structure. Et généralement, le plan de la mémoire, c'est le moment de le dire, le plan général de la mémoire, je crois que vous l'exprimez, hein, une introduction qui doit faire 10%. 10% du volume des pages. Là, je suis quantitatif, précis. 10%, c'est beaucoup 10%. Puisque dans l'intro, il faut tout justifier. Grosso modo, ça sera la note d'intention que vous allez remettre au mois de février. Donc, l'introduction. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez forcément entrer dans la validation des hypothèses. Le plus simple, c'est un premier élément de contexte général, si on veut, puis la validation de l'hypothèse 1, validation, l'hypothèse 2, l'hypothèse 3, etc. Vous pouvez varier en disant, peut-être que je vais plutôt faire le contexte, hypothèse par hypothèse. Donc, ça sera hypothèse 1 et son contexte, hypothèse 2 et son contexte. Vous voyez, soit vous balancez tout le contexte au début et les hypothèses après, soit le contexte lié aux hypothèses. Plus les considérations méthodaux, les résultats. La préconclusion, c'est de reprendre les résultats scientifiques de tout ça et la conclusion générale. C'est ça le plan. Le reste, je répète que c'est plutôt le check-up de tout ce que vous allez mettre dans votre mémoire. OK ? Et ça, c'est plus une liste de tâches à accomplir, de bouquins à lire, de choses à faire, plutôt que le plan au sens du dessin. Donc, la réponse, oui. Si vous faites le plan à la fin, c'est pas un problème. Je vous rappelle aussi que qu'est-ce qu'on écrit en dernier dans la mémoire ? Oui, faire ça, oui. Le plan de la rédaction difficile. Est-ce qu'on rédige en dernier ou qu'on re-rédige en dernier ?
L'intro ?
L'introduction, bien sûr. C'est l'intro le plus difficile. Et c'est toujours par l'intro qu'on termine. Parce que dans l'intro, et là, vous avez toute la liberté, hein. Et les gens qui, dans l'intro, vont tout annoncer, tout, sans suspense, quoi. Il y en a d'autres qui, au contraire, mais j'y reviendrai, mais puisqu'on parle de plan, j'en profite pour faire cet aparté, il y en a d'autres qui vont faire un plan un peu plus sibyllin. Ils vont sous-entendre que, il y en a qui, dès l'intro, disent, ma problématique va être validée de telle et telle façon, bref, tout est clair, et d'autres, au contraire. Et là, vous êtes libre, heureusement, c'est chouette. C'est en fonction de ce que vous êtes. Hein. Il y a des gens qui aiment bien un ton un peu mystérieux, je ne vais pas tout dire, je vais me cacher un petit peu. Il y en a d'autres qui, d'un coup, totalement, vont donner dans l'intro la conclusion. Ça vous appartient. Et là-dessus, heureusement, vous êtes libre. Bon, alors, peut-on répondre par oui ou par non ? On a été long sur ce point. Ça fait partie de mes trois premiers critères. J'ai dit tout à l'heure, ce sont les killers, les méchants. Je vais jusqu'au 5, on se fait la pause au 5. La réponse n'est-elle pas trop évidente ? Numéro 4. Le critère d'évidence. Ça, c'est pour dire, est-ce que ça sert de passer des mois pour enfoncer des portes ouvertes ? Pour déboucher sur une chose dont on va dire, bah ouais, quoi, à quoi ça sert de faire ça ? C'est la première fonction de ce critère de l'évidence. Il y a une deuxième fonction, plus compliquée, qui consiste à dire qu'il faut aussi parfois débusquer les fausses évidences. Tout ce qui va de soi, tout ce qui semble ne pas poser problème, ce qu'on appelle, pour parler bien, la vulgate, hein, ce qui est du domaine du vulgaire, que tout le monde reprend, pourriez penser, eh bien, bon sens. Hein. Tout ce qui est en apparence évident, eh bien là, votre boulot, ça peut être d'aller contre cette apparence, et au contraire, de montrer que ce n'est pas si évident que ça, et que derrière l'évidence, eh bien, il y a des questions qui se posent, et qu'il convient d'y répondre. Vous voyez ? C'est dans les deux sens, l'évidence. Parfois, c'est trop évident, ne fatiguez pas. Je crois qu'un des exemples que vous avez donné, si vous travaillez sur un bulletin municipal, de je ne sais quelle ville, vous posez la question, est-ce que ça sert les intérêts du maire ? L'intérêt politique ? Sans blague, enfin, ce genre de questions, et alors, vous voyez, c'est quand on vous dit « Ah bon ? Sans blague. » Évident. Si vous voyez que la stratégie déployée par le maire pour sa réélection dans le journal, ah, ça commence à être plus intéressant. Et si vous dites que le maire va déployer tel type de stratégie plutôt que tel autre pour y parvenir, ça devient très intéressant. Vous voyez le truc ? C'est pas en posant la question « Est-ce qu'il y a une influence ?» Of course qu'il y a une influence par ligne. De toute façon, les travaux sur l'influence, méfiez-vous, c'est toujours très très difficile. Mais c'est de voir quelles stratégies sont mises en œuvre, comment est-ce qu'elles sont conduites, expliquées, comment est-ce que les équipes de communication les reprennent, les prennent, etc. Ça, c'est les vraies questions. Et là, vous allez pouvoir répondre par vous-même. Vous voyez le truc ?
Bon, cinquième critère, c'est une limite.
Est-ce qu'il y a des limites? C'est un critère gentil. Hein. Ceux-là, c'est les killers, j'ai dit. Ça, c'est un critère d'intelligence, de finesse, de perception des choses. Et ça, c'est un critère tout gentil pour vous. Lui, il est gentil, il vous aime bien. C'est celui qui vous demande, est-ce que vous ne donnez pas un travail trop conséquent? Un travail dont vous ne verrez pas la fin, parce qu'on vous demande, est-ce qu'il y a des limites à réflexion au corpus? Est-ce que la problématique n'est pas trop générale? On a souvent tendance, quand on débute dans cette activité, à prendre des problématiques beaucoup trop générales, quoi. Beaucoup trop générales. Qui vont changer le monde, révolutionner tout. C'est bien à remarquer, parce que si vous êtes comme ça, si vous avez envie de changer les choses, c'est super. Au bout d'un moment, on va dire le principe de réalité, quand tout va revenir, après le principe de plaisir, et doit vous pousser à limiter les choses. Et à dire au départ, par exemple, je pars pour toutes les entreprises françaises. Ah ouais, toutes. Ah d'accord. Les grandes, les très grandes, les petites, les moyennes, les industrielles, les services, les commerciales, celles qui sont par région Rhône-Alpes, celles qui sont à Saint-Étienne. Vous voyez, vous commencez par toutes les entreprises françaises, vous finissez par les PMI du bassin stéphanois. Certes, c'est moins excitant de bosser sur les PMI du bassin stéphanois que toutes les entreprises françaises ou mondiales, je veux bien reconnaître. Mais sauf que les PMI du bassin stéphanois, vous les connaissez, il y a des répertoires, c'est facile à aller voir, à louer, machin. Vous approchez de la France, vous faites comment? Vous allez vous interviewer, vous, les patrons du CAC 40, peut-être? C'est plus facile d'avoir un patron d'une PME ici qu'un patron du CAC 40, vous voyez? C'est ça les limites. Alors, Gigi est gentil, ce critère, parce que c'est celui qui vous permet de ne pas vous fourvoyer, mais il est aussi un petit peu exigeant, parce que quelque part, il vous ramène sur des choses parfois un peu trop terre-à-terre, un peu trop simple. Mais quand on est très malin, on s'est un super mémoire de l'année dernière, qui était à propos d'une radio, Active Radio, super mémoire, au travers du seul cas d'Active Radio, l'étudiant qui a fait ça pose des questions, bien sûr, qui peuvent être générales à la radio, à la radio de proximité, et qui vont être vraies pour les autres radios de proximité de Saint-Étienne. Mais elle n'a pas fait toutes les radios. Elle a fait Active, uniquement celle-là. Et ça, ça va être un choix très important pour vous de savoir est-ce que je prends un micro-corpus Active Radio, ou est-ce que je prends toutes les radios de proximité de Saint-Étienne, on a 5-6, quoi. Enfin, ça dépend où vous arrêtez la proximité. Ou est-ce que je prends l'ensemble des radios de proximité française? Là, c'est... Je vais écouter ce qu'ils disent à Brest, sûrement, bien sûr, et à Lille, et à Strasbourg, et à c'est... Oui, c'est pas possible. Donc, ce critère-là, il est plutôt cool et gentil. En plus, il n'est pas de nature à remettre en cause votre boulot, parce qu'on peut toujours limiter un peu plus tard. Bon, la dernière question, mais je vais aller vite, puisqu'on se la pose après, c'est de dire, est-ce qu'il faut l'annoncer dans la problématique les limites? Ça, c'est votre liberté. Si vous faites une problématique un peu générale, et dans l'explication, vous posez les limites. Hein, par exemple, vous avez parlé des PME, PMI françaises. Mais tout de suite, on va savoir que les PME, PMI françaises, en fait, c'est... Non, ça t'échappe. Ça, c'est... Si vous voulez donner une valeur générale, vous allez donner un titre un peu vague, que vous précisez tout de suite. Maintenant, si vous êtes du genre à mettre les points sur les lignes, vous savez, il y a des gens comme ça, qui aiment bien la précision. Eh bien, dans le titre, vous avez le régime au PMI stéphanois. Comme vous voulez. C'est vous qui... Hein? Si vous êtes quelqu'un de concret, de précis, de un peu pointilleux, moi je parle un truc précis, c'est ça dont je parle, donc je parle des PMI, c'est pas de rien d'autre. Je préfère une valeur un peu plus générale, je parle des PMI françaises, et je vais vite comprendre que la France, en fait, ben, c'est ce qu'on va voir. C'est pas grave, purement que le lecteur n'est pas trompé sur la marchandise, et qu'il sait que quand il dit français, en fait, c'est Saint-Étienne, bon, voilà. Que se comprendre, le résumé sera là pour dire qu'attendez les amis, c'est pas toute la France, hein, c'est pas l'Europe, c'est uniquement la région stéphanoise. Bon, voilà les 5 premiers critères. Rien qu'avec ceux-là, eh ben, il y a des fausses problématiques qui vont dégager. J'appelle ça le tir au pigeon d'argile, vous savez, où on lance des pigeons d'argile et on est tous en train de tirer dessus. Eh bien ça, on va lancer vos problématiques et on va tirer dessus. C'est un jeu absolument adorable. Consiste à se débarrasser de toutes les fausses problématiques. On se fait une pause ?
Ouais.
Allez, ouais, on va dire une pause.